Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde. Nous sommes le jeudi 22 février. Et on commence sans sommaire, on y va direct, à froid, comme ça, avec cet hommage qui a été rendu hier à Montpellier, sur lequel revient le journal Le Point, avec un G à la fin. Un hommage où une centaine de personnes se sont rassemblées hier, donc mercredi 21 février, lors d'une commémoration pour une femme qui a été tuée par son ex-mari la veille devant le tribunal de Montpellier, sur les marches même du tribunal. Dans cette foule présente hier, en début de soirée, une majorité de militantes féministes et beaucoup d'émotions, puisque c'est donc mardi qu'une femme de 66 ans a été abattue par son ex-mari, juste à l'entrée du bâtiment, alors que justement il s'y rendait pour un rendez-vous avec le juge des affaires familiales. L'homme a retourné ensuite son arme contre lui, il s'est donc suicidé dans la foulée en emmenant son ancienne femme avec lui. Quelques élus avaient fait le déplacement hier pour ce fémage, ça serait le mot, la féminisation du mot hommage, ce qui serait pas mal effectivement que ça rentre dans le langage courant pour ce genre d'affaires. Une dizaine de participants tenaient dans leurs mains une lettre, chacun pour dessiner le message suivant « On ne veut plus compter nos mortes ». Au micro, par exemple, Nawel a fait part de sa colère en pointant du doigt un véritable problème de prise en charge. Elle explique « S'il n'y avait pas de traces pour le moment de violence conjugale déclarée dans ce cas-là, dans le cas de cette femme », elle rappelle que dans 41% des homicides conjugaux ou des tentatives d'homicide, la victime s'était déjà signalée auprès des autorités. 41% quand même des cas. Dans le même temps, les mains courantes et les procès-verbaux des renseignements judiciaires débouchent sur des investigations dans moins de 20% des cas. Tout ça est d'autant plus scandaleux qu'il n'y a pas assez de place en hébergement d'urgence pour des femmes qui en auraient besoin qui auraient besoin de s'éloigner d'un conjoint violent. Au cours de cette mobilisation, hier, donc au sol devant le tribunal à Montpellier, des paires de chaussures symbolisant les disparus de la violence patriarcale et une pancarte qui dit « Le féminicide est un crime de possession ». Autour de ces chaussures, 22 fleurs et 22 bougies ont été posées. Sous le regard silencieux de toutes ces participantes, 22 fleurs, 22 bougies, donc pour les 22 femmes victimes de féminicide depuis le début de cette année 2024. Et on n'est que en février. Au gouvernement, on évoquait 94 féminicides pour l'année dernière, 2023, mais pour l'association Nous Toutes, elle comptait plutôt 134 femmes tuées en raison de leur genre. À la fin de ce rassemblement, juste avant la dispersion, une femme s'est avancée, a pris la parole en expliquant son cas à elle. « Depuis 18 mois, j'ai déposé plainte pour des menaces de mort de la part de mon ex-conjoint, en précisant bien que celui-ci avait une arme à feu chez lui. » Eh bien, depuis 18 mois, il ne s'est rien passé, malgré des relances quotidiennes de mon avocat. Si donc la femme qui est décédée mardi avait été victime de violences et avait déposé plainte, il ne se serait rien passé. Donc voilà, occasion d'alerter sur justement la prise en charge. Et à savoir que dans le département de l'Hérault, il y a quelque chose qui s'appelle l'Observatoire des violences faites aux femmes. C'est un site sur lequel on peut se rendre d'ailleurs de manière complètement anonyme, on peut effacer les traces en un seul clic. Il y a plein de numéros et de contacts aussi, justement, si vous souhaitez avoir des informations ou que vous avez besoin d'alerter sur des situations de ce type.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Des nouvelles de l'évacuation des écureuils en cours du côté de la commune de Saïx dans le Tarn. C'est sur France 3, région justement du Tarn, qu'on en trouve. Les écureuils, ce sont ces personnes perchées dans les arbres pour empêcher leur abattement. Eh bien, ils ont attaqué de nouveaux arbres. Enfin, ils ne les ont pas attaqués, mais ils se sont perchés dans de nouveaux arbres alors que d'autres se font toujours déloger. Ils sont a priori encore 7 pour l'instant. Les forces de l'ordre arrivent à en déloger à peu près un par jour. Et on va aussi parler de la venue du rapporteur spécial de l'ONU aujourd'hui dans le Tarn. Trois jours après l'intervention des forces de l'ordre, donc sur la ZAD, les opposants à l'autoroute A69 occupent toujours un site situé sur le tracé de cette future autoroute. Une opération de déboisement a malgré tout été lancée par les forces de l'ordre, au fur et à mesure justement qu'ils essayent d'expulser les militants. En réponse à l'action des pouvoirs publics, de nouveaux arbres ont été occupés aujourd'hui ou dans la nuit. Et donc, je vous le disais, le défenseur de l'environnement de l'ONU a été saisi. Le bras de fer est donc loin d'être terminé. C'était lundi que les gendarmes avaient évacué la partie au sol de la ZAD, donc les cabanes et installations collectives. Mais l'opération est toujours en cours, avec 7 militants écologistes encore en hauteur perchés dans leurs arbres. Le préfet du Tarn s'appelle Michel Villebois. Il estime que la situation peut durer encore plusieurs jours. Et il met en avant une méthode, le dialogue, hein, c'est ce qu'il préconise en tout cas auprès des journalistes qui l'interviewent. Pour les militants écologistes, c'est pas vraiment comme ça qu'ils ont senti la chose, et ils dénoncent au contraire des pressions physiques et une agressivité des forces de l'ordre. Je vous en ai déjà parlé mardi, il y a même une enquête qui est ouverte pour les faits qui se sont passés ce week-end. Pour le préfet, l'objectif, c'est de convaincre les écureuils, ces personnes qui sont dans les arbres, de descendre. 2 des 9 personnes sont déjà descendues, c'est une opération qui prendra plusieurs jours. Il met donc en avant cette volonté de ne pas passer en force et de négocier. Là encore, la version des militants conteste complètement cette stratégie. C'est par exemple Thomas Digard, qui est un des militants du groupe national de surveillance des arbres, qui raconte « Le préfet ment ». Il prétend que les gendarmes grimpeurs montent à la rencontre des écureuils pour dialoguer et négocier. Or, la seule fois où les gendarmes sont montés, ils ont plaqué au sol et fait une clé de bras à un écureuil. Tout ça donc en hauteur, donc dans des situations qui peuvent être potentiellement très dangereuses. Le préfet a par ailleurs prétendu que les gendarmes apportaient de l'eau à ces personnes. C'est totalement faux. Et c'est à force de grandes négociations que les soutiens ont pu ravitailler un petit peu justement les militants qui sont là-haut, et dont certains étaient en grève de la soif. Les divergences et les polémiques ne portent pas donc uniquement aussi sur l'évacuation justement de cette ZAD et les modalités, puisque le fond de l'histoire, c'est quand même l'abattage de ces arbres. Et le début de cet abattage a commencé, notamment sur la zone qui a été dégagée par les gendarmes. C'est le sujet principal qui oppose la préfecture et les militants écologistes dans cette lutte. Et une annonce du préfet du Tarn soulignait que l'abattage des arbres avait commencé hier, et qu'elle s'était faite après intervention d'un écologue. Un écologue qui doit donc valider arbre par arbre. Et si c'est une espèce protégée, il n'est pas coupé. Et les arbres qui sont désignés, parce qu'ils ne comprennent pas d'espèces protégées, peuvent eux être abattus et l'ont été. Le représentant de l'État précise que l'écologue est bien mandaté par Atosca, donc le concessionnaire de l'autoroute, mais que le travail est vérifié par l'OFB, l'Office français de la biodiversité. S'agissant des opposants au projet autoroutier, la présence de cet écologue est considérée comme une mascarade. Et Thomas Digard, toujours le même militant, relativise d'ailleurs l'ampleur de l'opération d'abattage, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Un seul arbre, pour l'instant, a été abattu avec une cabane dedans. Je fais une petite parenthèse dans cet article que j'ai trouvé donc sur le site de France 3 Région, qui renvoie vers un autre article qui s'appelle, il m'a fait sourire, « Ils sont payés pour protéger la nature, mais travaillent pour des entreprises qui l'abîment. Ce sont les écologues. » Voilà. Allez lire un petit peu, justement, ils se sont penchés sur cette profession d'écologue qui regroupe un petit peu tout et rien. Et bien souvent, ces cabinets d'études sont mandatés par les commanditaires des travaux, ce qui peut poser quelques petits problèmes dans la probité et dans les analyses qui sont rendues. Bref, on ferme cette parenthèse et on retourne sur cette ZAD donc, qui s'appelait, ça c'était pas la crème marbre je crois, si c'est ça, elle change de nom au fur et à mesure qu'il se déplace. Donc les gendarmes sont toujours en train d'évacuer ce site qui était occupé depuis le 12 novembre, mais déjà les militants écologistes, je vous le disais, se sont installés sur une nouvelle zone juste à côté. Plusieurs nouveaux écureuils se sont donc installés dans les arbres, des chênes, et c'est toujours le même mode opératoire, une petite plateforme, de quoi dormir et tenir. On ne connaît pas pour l'instant le nombre de ces militants, mais le nouveau lieu d'occupation a lui un nom, et c'est la Calarbre. Ce 21 février, donc hier mercredi dans la matinée, les opposants à la 69 avaient saisi le rapporteur spécial de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement. C'est un Français, il s'appelle Michel Forst. Et ce n'est pas simplement une saisine dans le cadre d'une convention internationale, puisque Michel Forst a bien décidé de se rendre à Saïx afin d'observer sur place la situation. Il avait déjà fait part dans des tweets ces derniers jours de son inquiétude face justement à la situation alarmante et aux modalités des forces de l'ordre. Il est normalement censé y passer toute la journée aujourd'hui, en allant rencontrer des défenseurs de l'environnement, ainsi que les observateurs et observatrices de la Ligue des droits de l'homme qui sont sur place aussi. Ils ont décidé de venir rester sur place pour protéger un minimum les militants. Et cet observateur de l'ONU a également annoncé avoir sollicité un rendez-vous avec le préfet du Tarn, à Albi. Donc, des rendez-vous sont également prévus à Toulouse demain avec Claire Dujardin, qui est avocate au barreau de Toulouse.
C'était vraiment très intéressant.
Une centaine de personnes étaient rassemblées hier à Clermont-l'Hérault, donc dans la journée du mercredi, pour protester contre les pressions de la mairie. La mairie qui cherchait à empêcher un agriculteur d'afficher son soutien à la Palestine sur son stand sur le marché. C'est un article du Point encore qui nous relate cela. Il faut remonter à la semaine dernière pour comprendre ce qui s'est passé. Donc le 14 février, Mariano, qui est un maraîcher habitué de ce marché de Clermont-l'Hérault, reçoit la visite des gendarmes sur son stand et lui demande notamment d'enlever des t-shirts avec dessus des messages pro-palestiniens. Une altercation débouche sur l'interpellation d'un client qui est venu en soutien à cet agriculteur. Selon lui, Mariano et sa compagne Martine auraient été menacés d'expulsion du marché par les agents municipaux. Après une entrevue avec le maire de la commune ce lundi, le maire a demandé aux paysans d'enlever les t-shirts qu'il avait accrochés à son stand. Mais le maraîcher a décidé de les maintenir pour réaffirmer son droit à la liberté d'expression et son soutien à la Palestine. Mais il craint donc une expulsion pour lui du marché. C'est pourquoi cette mobilisation a eu lieu hier, appelée par des maraîchers, mais aussi reliée par BDS, hein, Boycott Defense... Comment c'est quoi déjà ? Je ne sais plus ce que ça veut dire BDS, mais en tout cas, il prône un boycott des produits d'Israël notamment, avec également l'association Les Faucheurs, la Confédération Paysanne, Gaza Déplacée, AFPS et le Parti Communiste, et le député insoumis Sébastien Rome, voilà, parmi les organisations politiques qui étaient présentes sur place. Plusieurs de ces organisations et collectifs ont pris la parole, faisant le lien entre la nécessaire liberté d'expression, le soutien au peuple de Palestine, mais aussi aux agriculteurs palestiniens qui sont spoliés de leurs terres par l'occupant. Le couple de maraîchers a été ému de cette mobilisation et satisfait de son ton déterminé et posé. Pour l'instant, affaire à suivre.
Audi, panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
On continue sur le domaine justement des agriculteurs, puisqu'on en parle pas mal en ce moment, un peu partout, avec notamment l'approche du Salon de l'Agriculture et le mouvement des agriculteurs qui continue. Eh bien, c'était hier matin qu'on pouvait lire ceci, une intrusion historique sur le site, dans l'immeuble de la maison mère de Lactalis. 200 paysans ont occupé le siège de ce géant laitier. On est en Mayenne, dans la ville de Laval. Cela à 3 jours donc, de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, près de 200 paysans et une dizaine de tracteurs ont convergé sur le siège social de ce numéro 1 mondial des produits laitiers. Je vous disais donc Lactalis. Jamais cette multinationale qui est basée à Laval n'avait connu un tel envahissement en près d'un siècle d'existence. En une poignée de secondes, vers 14h, sous les regards incrédules des salariés et de la direction, les drapeaux jaunes de la Confédération paysanne ont flotté par dizaines dans les couloirs immaculés de ces bâtiments. Un témoignage d'un des éleveurs qui est venu à cette occupation. Le prix fixé par Lactalis au début de l'année est inférieur à celui de 2023. Et pendant ce temps-là, le montant de l'assurance et des charges grimpe. Ce n'est plus possible. D'autant qu'en grande surface, dit-il, notre lait est vendu 3 fois plus cher. Voilà, ces manifestants, principalement des éleveurs, sont venus de la Sarthe, du Maine-et-Loire, de la Manche, mais même de l'Ariège aussi. Et tous dénoncent les contrats imposés par la multinationale. Des contrats qui asservissent les éleveurs et poussent certains à travailler à perte. La direction de ce syndicat a demandé d'être reçue par l'un des actionnaires de la firme Lactalis. En vain, personne n'a voulu discuter avec eux. Si on revient un petit peu sur la réalité de ces prix, justement, au mois de janvier et de février, ce géant laitier avait fixé le prix des 1000 litres à 405 euros. Ça fait 40 centimes d'euros le litre. Avant d'augmenter à 420 euros, cela sous la pression des blocages. Mais ce montant est encore bien inférieur à ce que payent d'autres laiteries. Et ça sonne comme la preuve ultime de l'inefficacité de la fameuse loi Egalim, une loi adoptée en 2018, qui est censée justement protéger la juste rémunération des agriculteurs. Inefficacité donc aux yeux des manifestants. La Confédération paysanne exige de son côté une revalorisation immédiate des 1000 litres de lait à la hauteur de 500 euros, donc ça fait 50 centimes le litre. Plus tôt dans la matinée, à l'hôtel Matignon, le Premier ministre Gabriel Attal pointait justement du doigt les fraudeurs de cette loi Egalim en menaçant que les contrôles se multipliaient et que les sanctions seraient au rendez-vous. Et il promettait par ailleurs la présentation au Parlement d'un nouveau projet de loi d'ici l'été, en disant « On ne peut pas accepter qu'un industriel conclue un prix avec un distributeur, par exemple une grande surface, avant de se retourner vers le producteur pour lui imposer ce prix. » Visiblement, c'est quand même ce qui se passe. Et c'est ce qui fait que ces déclarations ont été accueillies avec plutôt de l'hostilité par Laurence Marandola, la porte-parole du syndicat de la Confédération paysanne. L'urgence est là, dit-elle. Elle ne peut pas attendre l'été. En 2 semaines, le gouvernement a pu s'en prendre à Ecophyto, les normes qui visaient à réduire le recours aux pesticides. Pourquoi on ne pourrait pas se doter d'une loi qui protège le revenu des paysans dans le même laps de temps ? La porte-parole de la conf réclame l'interdiction de tout achat de produits agricoles en dessous du prix de revient. Autrement dit, il faudrait un prix minimum qui couvre au moins le coût de production, la juste rémunération du paysan et de sa protection sociale. Et d'ailleurs, la Confédération paysanne n'était pas la seule à monter au créneau. La veille, donc mardi, un camion-citerne de Lactalis avait lui aussi été intercepté près de Vesoul. Une action là commanditée par la Fédération départementale des producteurs laitiers, une branche de la FNSEA. C'était à la tombée de la nuit que l'engin s'apprêtait à clôturer sa collecte dans les fermes. Une 30aine d'éleveurs l'ont immobilisé avant d'en extraire le lait. Ce butin a été distribué ensuite aux paysans du coin pour nourrir leurs veaux. Au micro de l'AFP, le président de cette justement Fédération départementale des producteurs de lait, Michael Mühlmatter, détaillait le pourquoi de cette saisie. Avec ses marques comme président, Lactel Roquefort, Société et Galbani, Lactalis se comporte comme un seigneur en donnant ce qu'il veut aux producteurs sans aucune négociation possible. Début février d'ailleurs, il y a eu des affaires qui ont touché Lactalis avec des perquisitions qui ont été menées au siège, donc à Laval, au siège de ce groupe, aussi dans ses bureaux parisiens et dans l'hôtel particulier de son président. Un chiffre d'affaires qui dépasse les 28 milliards d'euros pour 2022 fait de Lactalis le numéro 1 français de l'agroalimentaire devant Danone. Et il est donc désormais sous le coup d'une enquête du parquet national financier pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée pour des faits qui s'étendraient de 2009 à 2020. De quoi rajouter un peu de pression sur la gouvernance de Lactalis. On revient donc à cette occupation d'hier. Un des manifestants justement s'appliquait à énumérer la poignée de milliardaires qui détiennent la totalité des actions de ce groupe. Et il cite Emmanuel Besnier, 6e fortune de France, son frère Jean-Michel et sa sœur Marie. C'est tout, insiste cet éleveur. Que 3 personnes, donc un trio qui détient 36 milliards d'euros. Un éleveur bovin mettrait 2 millions d'années à récolter une telle somme. Leur déconnexion avec le métier est fulgurante. Voilà un petit peu d'ambiance de l'occupation du siège de Lactalis hier à Laval avec une joyeuse bande d'éleveurs dénudés qui chantaient au balcon du siège de la maison mère. Et l'article de Reporter, d'ailleurs, où j'ai trouvé ces informations, termine. Ils ont croisé à 19h sur un quai de la gare Montparnasse le PDG, justement, Emmanuel Besnier. Et ben, il a refusé de répondre aux questions des journalistes de Reporter.
C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches.
On continue avec les agriculteurs et cette brève qui nous informe que le gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux dans ce qui concerne l'accompagnement à l'installation de nouveaux agriculteurs. C'est aussi dans les colonnes de Reporter que j'ai trouvé cette petite brève. Ça représente 6 millions d'hectares de terres agricoles. C'est presque un quart des terres agricoles françaises. Et ces 6 millions d'hectares, donc c'est la surface qui devrait changer de main d'ici 2030. Ce chiffre a été révélé par l'association Terre de Liens dans un rapport qui vient de sortir il y a 2 jours. Ça fait plus d'un quart des agriculteurs et agricultrices qui vont en effet partir à la retraite d'ici 2030. Il y a donc urgence à les remplacer et à installer de nouveaux agriculteurs. C'est ce que plaide en tout cas l'association Terre de Liens. Mais déplore-t-elle, la tendance ne va pas dans ce sens. Plus de la moitié des surfaces... En effet, plus de la moitié de ces surfaces qui vont être libérées suite à ces mises à la retraite vont aller à l'agrandissement des fermes voisines. Donc ça n'augmente pas le nombre d'agriculteurs. La difficulté à accéder à des terres empêche les nombreux candidats à l'installation de réussir leur projet. Ils sont 21 000 chaque année et seuls 12 500 réussissent à se lancer. Ça fait un petit peu plus que la moitié. Selon les projections de Terre de Liens, toujours, les agriculteurs et les fermes devraient continuer de disparaître si la tendance n'est pas inversée. En 2030, il y aura 400 000 agriculteurs et 300 000 fermes, contre aujourd'hui presque 500 000 agriculteurs et 381 000 fermes en 2020, pardon, pas aujourd'hui. Donc sur 10 ans, une énorme disparité des fermes en gros qui s'agrandissent et un nombre d'agriculteurs qui diminue. Alors qu'une loi d'orientation agricole censée faciliter l'installation en agriculture devrait être dévoilée dans la semaine, Terre de Liens fait des recommandations pour faciliter l'accès aux terres. En particulier, elle demande des mesures qui permettent de massifier le portage foncier agricole, c'est-à-dire l'achat des terres agricoles, par des structures qui les mettent ensuite à disposition des agriculteurs. C'est d'ailleurs ce que fait déjà Terre de Liens. Elle demande en particulier que ce portage soit réservé à des fermes agroécologiques, qu'il soit non spéculatif et que ces structures aient une gouvernance désintéressée. Quand ces conditions sont remplies, l'association recommande alors des incitations fiscales. Jusqu'ici, selon les dernières annonces, le gouvernement prévoit une enveloppe de 80 millions d'euros sur 10 ans, ce qui ne permettrait d'acheter que 1300 hectares par an, soit 0,1% des terres agricoles qui se vendent chaque année. Pour faciliter environ 40 installations sur toute la France, c'est dérisoire, hein, là où le renouvellement des générations, et avec lui justement toute la question autour de la résilience alimentaire, nécessiterait l'installation de 20 à 25 000 agriculteurs et agricultrices par an. Voilà, c'est toujours un rapport donc, de Terre de Liens assez accablant.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
Et on va parler un peu viticulture et ceux qui la défendent. On revient donc avec un peu dans l'histoire aussi en arrière avec cet article du journal CQFD, le dernier journal CQFD qui vient de sortir, qui revient sur le CRAV, c'est les comités régionaux d'action viticole. C'était dans la nuit du 18 au 19 janvier dernier, à Carcassonne, un bâtiment de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, faisait boum. Les photos impressionnantes montraient un rez-de-chaussée avec ses bureaux intégralement dévastés. Et cet attentat a été revendiqué par le CRAV, donc le Comité Régional d'Action Viticole. C'est un groupe radical, occitan, de producteurs de vin. Ça n'a bizarrement pas suscité de grandes réactions dans les journaux. Et pourtant, se demande CQFD, imaginons la gueule des JT si des individus se revendiquant, par exemple, des soulèvements de la terre, faisaient sauter un bâtiment public. Mais là, c'est passé assez tranquille, hein, les médias qui n'utilisent ni le terme de terrorisme, ni même celui d'attentat. Le seul titre un petit peu chaud et avec quand même de l'humour, c'était dans Vitisphère, un site destiné aux pros de la vigne. Ils ont dit « le comité d'action viticole pète un plomb et l'Adréal, voilà. Dans les autres médias, on parlait de dégradation de biens. Niveau personnalité politique, hein, personne non plus pour dénoncer avec vigueur cette modalité d'action explosive. Difficile donc de ne pas y voir un deux poids, deux mesures assez fascinant, hein, le même qu'on voit quand la FNSEA recouvre des tonnes de lisiers des préfectures sans que Darmanin ne lève le petit doigt. Et bien justement, se plonger dans l'histoire de ce CRAV, fondé dans les années 60, comme bras armé du syndicat des vignerons, c'est découvrir que cette relative mansuétude, en tout cas tolérance, ne date pas d'hier, tant les actions revendiquées ont été nombreuses et explosives, sans que ce groupe ne soit réellement inquiété. Petit tour dans l'histoire, en 88, le 6 décembre, une salle de l'hôtel des impôts de Narbonne a sauté, avec des inscriptions rappelant que le gel a fait des dégâts et qu'ils attendent donc de l'argent. Le 27 février 2002, des charges explosives défoncent une armoire qui commande les passages à niveau et les signalisations sur la ligne de train Paris-Perpignan. Le 17 juillet 2013, un attentat à la bombe endommage les locaux du Parti Socialiste à Carcassonne et l'école située en face. En juin 2017, une dizaine de personnes s'introduisent chez un négociant en vin de Téran, dans l'Hérault, et ouvrent les robinets de ses 17 cuves, résultat 200 000 litres de vin déversés sur le sol. Et on ne parle pas de cette fusillade historique en 1976 contre des CRS, avec un commandant de CRS qui a été tué d'une balle par des viticulteurs au doigt en colère. C'était au cours d'un blocage justement initié par la CRAV. C'est d'ailleurs, je crois, le dernier mort de policiers en manifestation en France, apparemment. Au niveau des tribunaux, pareil, hein, plutôt clément. En 2017, 5 de ces activistes ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtent à mener une action clandestine dans le Bordelais, avec des haches, du gasoil et des cocktails Molotov sur eux. Jugés en 2019, ils seront relaxés. Et quand on lit le réquisitoire du procureur, et ben effectivement, on voit beaucoup de modération. Il dit ceci. Habituellement, cette infraction d'association de malfaiteurs, on l'applique à des braqueurs, des trafiquants, des criminels. Mais là, on l'applique à des gens qui, le reste du temps, sont des travailleurs et ont sans doute des motifs de mener une action collective, mais pas des délits. Certains avaient peut-être pris l'habitude de croire qu'ils étaient intouchables. Voilà, un autre article s'intéresse sur cette question justement de l'impunité des agriculteurs. C'est dans Frustration. Ça s'appelle « Pourquoi les agriculteurs ont-ils le droit de tout casser ?» C'est Nicolas Framont qui résume bien les raisons de cette plutôt clémence envers ce qu'il appelle les gros bourrins de la FNSEA. Il rappelle d'abord leurs moyens physiques de pression, hein. Des tracteurs pour manifester, c'est tout de suite plus sympa, mais insiste surtout sur le fait que leurs revendications anti-écolo ou productivistes sont compatibles avec le macronisme et avec les intérêts des industriels. C'est bien le cas, notamment du syndicat des vignerons dont émane le CRAV, qui s'est fort éloigné de l'agriculture paysanne de ses débuts pour se rapprocher de la FNSEA. À l'heure où le mouvement de révolte agricole agite la France et que des actions de ce type vont sans doute se multiplier, cette histoire montre en tout cas simplement cette évidence que porte d'ailleurs le dossier du journal CQFD, à savoir que l'antiterrorisme est à géométrie variable. J'en profite d'ailleurs pour vous recommander très chaudement la lecture de ce dossier, une douzaine de pages sur l'antiterrorisme et le terrorisme, pour comprendre justement tout ce qui se cache derrière ces termes flous. Le titre du dossier est tout simple, il s'appelle « Tous terroristes ?», point d'interrogation, une partie consultable sur le site cqfd-journal.org. Et on termine ces nouvelles du monde avec des nouvelles des déchets de Stocamine, la fin d'un interminable feuilleton judiciaire et le début des travaux de confinement. Ça serait peut-être une des issues de cette information. C'était vendredi dernier que le Conseil d'État a donc cassé la décision du tribunal administratif qui suspendait l'arrêté préfectoral, c'est compliqué, autorisant le confinement des déchets dans cette ancienne mine de Stocamine en Alsace. En gros, ils vont pouvoir commencer les travaux. Le tribunal estime que les requérants, notamment l'association Alsace Nature, n'avançaient aucun élément qui permet d'établir que le démarrage des travaux de confinement des déchets sur ce site présenterait un danger immédiat pour les intérêts publics qu'ils invoquent. En gros, si tu ne prouves pas que le danger est avéré, que tu n'as pas des vraies preuves scientifiques, on va le faire. C'est un peu le contraire de ce qu'on appelle le principe de précaution. C'est grave, c'est dangereux, parce qu'à partir d'aujourd'hui, Stocamine peut commencer définitivement à enfouir ses déchets et à bétonner le tout. C'est complètement irresponsable, tempêtait d'ailleurs Yann Flory, le porte-parole de l'association des Stocamines. L'association envisage de nouveaux recours, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisque cette décision, vous l'aurez compris, ouvre la voie aux travaux d'enfouissement définitif de ces déchets toxiques. On est à Wittelsheim, une ancienne mine de potasse, et dans les éléments enfouis, on a de l'amiante, du cyanure ou encore de l'arsenic, qui seront donc normalement entreposés à plus de 400 mètres de profondeur et qui pourraient peut-être contaminer la plus grande nappe phréatique d'Europe occidentale, selon les opposants. Mais visiblement, ils n'ont pas amené des preuves assez convaincantes pour le tribunal.
Ah, la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Ah oui, j'ai fait la boulette.
On a repoussé les limites, là.
Allez, on n'a pas repoussé les limites du temps, on est à l'heure. C'est la fin des nouvelles du monde. On se quitte, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, sortez-vous bien aussi avec tout ce qu'on vous a proposé dans l'agenda culturel. Et moi, je vous donne rendez-vous donc mardi prochain.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.
Radio Escapade au Vigan, 103.3.